bienvenue. Quelque part, on pourrait dire qu'hier, tout était dit déjà. N'est-ce pas? Donc, il ne reste qu'à être aujourd'hui, c'est ça? En discutant ce matin avec Charles, nous avons eu tous les deux l'impression que ça pourrait être bien de parler un peu du travail avec les émotions. Comment on approche ce travail le plus important, on pourrait dire, dans la pratique du Dharma. Quand on parle dans le Dharma de cette grande liberté que l'on appelle aussi éveil, c'est surtout parce qu'on est libéré des kleshas, kileshas. Ce sont des voiles émotionnelles. Parmi ces voiles émotionnelles, il y a aussi les voiles qui empêchent la vision claire de la nature des choses. Quand nous sommes purifiés de ces deux voiles, deux types de voiles, on appelle ça l'éveil. Quand il n'y a plus rien qui voit notre compréhension. Tout cela, le Bouddha a soupçonné sous le terme de klesha, ce que vous voudrez dire de ne plus porter des lunettes d'une vision personnelle du monde, une vision colorée par soit l'attachement au désir, soit l'aversion, soit l'orgueil, soit un manque de conscience, aussi appelé ignorance. Vous voudrez plutôt traduire comme manque de conscience. Et aussi, dans l'ancien Abhidhamma, on parle des voiles de doute, donc de toujours questionner de ce qu'on vit, de ne pas vraiment pouvoir se mettre à l'aise, trouver la paix à cause des doutes qui reviennent. Et sixième component, de maintenir des vues, une vue, des visions des choses. Pas seulement des vues erronées, pour le Bouddha c'était juste une autre catégorie de vues, les vues erronées. Toute vue aussi empêche de voir la réalité. Donc c'est comme un préavis, un préjudice, hein, d'avoir préjugé, d'avoir déjà une idée comment la réalité devrait être. Et du coup, on porte des lunettes. On pourrait porter donc les lunettes d'un philosophe qui a une idée de la réalité. On pourrait porter les lunettes d'un être samsarique très simple. Mais comme vous savez bien, quand on a une approche scientifique, il faut se libérer de toute hypothèse qui sera comme une préjugé, mais plutôt une hypothèse de travail, ça convient, mais bien consciente que nous sommes en train de rechercher avec une hypothèse dans l'esprit. Et aujourd'hui, je vais en parler de ces six. Hein, je viens de vous énoncer les six kleshas racines. D'accord? Vous en connaissez déjà, il semble. Oui, ok. Donc, dans l'approche tibétaine, pour des raisons pratiques, on utilise un système de cinq cinq kleshas racines, où on a ajouté la jalousie pour correspondre à son opposé, l'orgueil, comme le désir correspond à la colère. Et au centre, c'est le manque de conscience qui inclut le doute et les vues. Donc ça, on appelle ça le mandala de samsara. Notre mandala de samsara, c'est que nous sommes, on pourrait dire, ici c'est le centre, n'est-ce pas? Le centre, c'est cette idée, cette hypothèse sur la réalité, comme quoi il y a un moi. Comme quoi il y a un noyau existentiel, un centre du vécu, depuis on regarde la réalité, on regarde son vécu, moi et mon vécu. On ne fait pas un, on fait deux. C'est la dualité essentielle. Toujours tiraillé entre désir et aversion, attachement et aversion, et orgueil et jalousie. Supérieur, inférieur. Tout capable, incapable. Ce sont les forces. Et ça, tout cela, ça joue autour d'un manque de confiance en soi. Même le désir et attachement et l'aversion en colère, c'est une expression de manque de confiance. Manque de confiance dans l'être, dans ce qu'on a appelé hier la nature de Bouddha. S'il y avait une compréhension de la nature de Bouddha, c'est-à-dire de notre nature d'esprit, il n'y a plus le reste. Et le mandala de samsara va se manifester comme le mandala des cinq familles de Bouddha, des cinq aspects de conscience intemporelle. Je ne sais pas si j'arrive de vous en parler aujourd'hui, mais ça pourrait aller jusqu'à là. Le Bouddha Shakyamuni, dans un sutta sur le travail avec les émotions, il en parle de sept étapes. Et un grand maître tibétain a subsumé ces sept étapes en quatre, en ajoutant une autre qui s'appelle prendre les émotions comme chemin. Ce grand érudit maître réalisé s'appelle Karma Chakme Rinpoche, en 17e siècle. Et c'est une approche extrêmement utile, c'est comme une grille de lecture pour tout notre travail du Dharma. Et ce que nous sommes en train de faire, en fait, quand on se dit pratiquant de Dharma, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas un pratiquant du Dharma si je ne fais pas un travail avec mes émotions. Non. Si je médite juste pour m'échapper, je ne suis pas un pratiquant du Dharma parce que je ne suis pas sur une voie de libération. Se libérer, ça veut dire se libérer de l'emprise de mes émotions, des projections, etc. Et ce travail peut être expliqué en cinq étapes. Première étape, c'est pouvoir s'arrêter. C'est le début de cette maîtrise de notre esprit. Quand une émotion monte, de pouvoir dire stop, pouvoir créer une pause, pouvoir ne pas agir tout de suite, ne pas réagir, donc ne pas tomber dans l'impulsion émotionnelle. Donc, première étape, pouvoir ne pas réagir, pouvoir faire une pause. Deuxième étape, parce que grâce à cette pause, grâce au non-réagir, ou on pourrait dire c'est non-agir, possibilité d'appliquer des remèdes. Donc d'utiliser des méthodes du Dharma, comme par exemple méditer les quatre Brahma-Vihara, amour, compassion, etc., comme remède pour mon état émotionnel. Deuxième étape, appliquer des remèdes. Troisième étape, ne plus appliquer de remèdes, mais transformer notre regard. Donc on appelle la troisième étape transformer, transformation. Développer la capacité de prendre un autre regard sur la situation. Pour vous donner un exemple rapide, je vais passer en long et large après par les étapes. Mais au lieu de voir un problème dans une situation, de changer le regard et se dire « Ah, bienvenue, le gourou est au rendez-vous, il y a quelque chose à apprendre. » Donc attitude de curiosité, attitude d'un apprenti qui souhaite apprendre quelque chose de cette situation qui est maintenant de bienvenue, qui n'est plus un problème rejeté où il faut appliquer des remèdes. Donc transformation du regard. Il y a bien plus à dire là-dessus. Et ensuite, quatrième étape, voir la nature de l'émotion. Là, il s'agit de voir le fait que l'émotion a la même nature que l'esprit lui-même, que toute émotion est esprit, sont des mouvements mentaux qui n'ont pas de substance, où finalement on n'a besoin de rien faire, juste laisser voir leur nature et la nature d'esprit se manifeste grâce au regard, on pourrait dire pénétrant, au regard incisif dans ce qu'on pense à être le noyau de l'émotion, là où il y a le centre de la peur, le centre de la tristesse, le centre de ma colère. En ayant ce regard vipassana, c'est vraiment un regard profond, lumineux, clair, pénétrant dans la nature de l'émotion. Jusqu'à là, ça colle avec les sept étapes que le Bouddha a énoncées. Et ensuite, la cinquième étape, ça c'est typiquement Vajrayana, donc le chemin qui est surtout pratiqué par les Tibétains aujourd'hui, c'est prendre les émotions comme chemin. Prendre les émotions perturbatrices comme chemin. Pas la joie, l'amour, etc., mais carrément stimuler les émotions pour en avoir plus, pour chaque fois regarder la nature de l'émotion, pour s'en libérer davantage. C'est comme si on grattait un peu à l'intérieur pour faire s'élever ce qui reste caché encore. Donc pas seulement ouvrir le couvercle en grand pour laisser tout sortir, mais si ça sort plus aussi facilement, mais il y a encore des choses qui restent cachées, de gratter un peu. Bon, nous n'avons pas normalement besoin de faire ça. On a une bonne quantité déjà d'émotions, mais si jamais ça vous manque, soit vous entrez en relation de couple, soit vous en occupez dans le centre du Dharma, ou vous faites un peu la politique, ou il y a des possibilités, hein? on en trouve. Ok. Mais en retraite de 3 ans, par exemple, dans cette phase-là, on se provoque mutuellement les émotions. et sans... Au début, on fait ça d'un propre d'un accord mutuel. Donc, par exemple, tu te mets en face de moi et au début, tu me feras que des louanges. Et tu vas apprendre tout ce que tu vois du bien et l'énoncer avec beaucoup de force. Et moi, ma pratique sera de voir l'orgueil monter et d'étendre toute identification. Et d'un coup, tu vas changer le registre et tu vas me critiquer à fond. Mais toujours sur des points vrais, donc où ça touche. Hein? Et pareil, il faudra donc, à ce moment, pareil, ne pas entrer dans l'identification, rester ouvert, voir la nature illusoire de tout ce qui s'élève. Et pour dire, par exemple, de Gen Rinpoche, dans cette phase-là, il est allé dans la pièce à côté, la cellule de son voisin, pour lui voler tout ce qu'il avait sur l'autel. Il a ramassé le bol d'offrande et tout ce qu'il avait sur l'autel et les a stockés chez lui, comme ça, en attendant le collègue qui cherchait donc ces choses, sans lui dire rien. Le collègue entre, voit le matériel. Voilà. Mais là, c'était fort. Et il faut maîtriser. Là, voir ce qui s'élève dans mon esprit et tout. Et puis, ça c'est donc déjà programmé, mais après, on se met dans des situations difficiles, c'est-à-dire on voit dans des lieux difficiles, avec des esprits invisibles, avec des gens en guerre, en conflit. On travaille avec les personnes qui ont, par exemple, au Tibet, qui avaient la lèpre, qui donc des gens malades que normalement les autres ne touchaient pas, on allait s'occuper des mourants, de toutes les difficultés. On y va. Ça, c'est la pratique pour travailler avec ses propres peurs. Ok, donc ça, c'est la fin du chemin. Vous avez pu suivre? D'abord, pouvoir s'arrêter, appliquer les remèdes, transformer la vision, voir la nature de l'émotion, de perturbatrice, et prendre les émotions comme chemin. Ce sont les 5 étapes. Et là-dedans, je disais, c'est une grille de lecture, n'est-ce pas, pour tout le Dharma, où vous trouvez tout l'enseignement du Dharma. Il peut être regroupé parmi ces 5. Et je vous propose d'y passer lentement maintenant pour voir comment vous pourriez l'utiliser. Quelques-uns parmi vous savez déjà que nous avons monté un institut de psychothérapie basé dans le bouddhisme, psychothérapie essentielle. Après des années d'échanges avec des psychothérapeutes francophones et germanophones, mais l'institut tourne en Allemagne et nous sommes à notre 9e cycle de formation de 3 ans pour des psychothérapeutes et on a déjà fait 2 cycles en francophone, en germanophone pour les professionnels qui sont déjà des psychiatres, des psychothérapeutes, où c'est une formation réduite d'un an et demi, avec seulement 400 heures de formation. Et dans ce travail-là, on utilise cette grille de lecture. Ça, c'est la base. Hein? Ça, c'est point de référence pour parler aussi des différentes approches thérapeutiques, pareil comme différentes approches de méditation ou de méthodes du Dharma. Donc, il s'avère que ces 5 étapes de Karma Chakma que Gen Rinpoche nous a enseignées sont extrêmement utiles. Maintenant, je reviens sur la base. La base de notre travail sont nos émotions. Et quand je dis bref émotion, sous-entendu, là aujourd'hui je parle des émotions perturbatrices qui créent des voies de perception. Vous savez bien, quand je porte les lunettes de la colère, je vois de partout de l'agressivité. Je vois des gens qui m'énervent. Je vois des situations énervantes. Je manque de patience. Toute la vie est perçue par mon propre sentiment de que moi, on m'aime pas, on m'agresse, on ne me respecte pas, j'ai besoin de me défendre, tout va mal, besoin de changer le monde. Tout ça fait partie de ces lunettes. Il y en a beaucoup plus. Mais je suis sur un plan, je suis dans une disposition facilement irritable. C'est cette base-là. D'autres jours, je porte, ou d'autres moments, je porte les lunettes du désir. Donc, ça, c'est plutôt envie. Envie de plaisir, envie de joie, envie de relation, envie d'être aimé. Ça se combine très bien avec un sentiment de manque aussi, avec un manque affectif. Tout cela, ça peut ensuite tourner vers la jalousie, mais le désir en soi, c'est vouloir. Et de partout où je regarde, je vois des mecs attirants, des femmes attirantes, très bien, je vois... Et j'ai toujours, je suis comme un chien où la langue sort de la bouche, j'ai toujours envie de faire quelque chose, aussi un état d'esprit très agité. Au centre de tout cela est un manque de stabilité. En fait, cette angoisse existentielle dont on parlait hier, elle est le centre de tout cela. C'est la peur. Ce qu'on appelle manque de conscience ou ignorance, en termes émotionnels, c'est la peur. Peut-être que vous n'avez jamais fait le lien en lisant le Dharma que dès qu'on parle de l'ignorance, on parle de la peur. Vous avez dû lire que l'ignorance, le manque de conscience, c'est la base du samsara. Mais personne ne remarque ce manque de conscience parce que ce qu'on ressent, c'est une angoisse ou plutôt un manque de stabilité, comment est-ce qu'on disait hier pour restlessness? Agitation, inquiétude. Hein? En profondeur de notre être. Un manque de confiance dans sa propre nature qui, comme première impulsion, génère un besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle s'exprime par sujet-objet. Moi et ce que je contrôle. On dit souvent moi et ce que je perçois, mais ce schisme dans la réalité, dans notre perception de la réalité, en fait, c'est un besoin de contrôler. L'observateur, c'est-à-dire cette fonction d'observer des choses, se séparer des choses, c'est par un besoin de les contrôler. On n'arrive pas à se fondre. Vous connaissez ce lien parce que si jamais ça vous arrive dans une relation d'amour ou dans la nature, de lâcher tout contrôle, là, il y a l'ouverture totale de l'esprit qui s'installe. Pareil quand on s'endort la nuit, il faut lâcher tout contrôle dans la confiance pour pouvoir vraiment s'endormir bien. Ce besoin de contrôle crée toujours moi et ce que je vis, moi et mon vécu, moi et ce que je désire, moi et ce que je ne veux pas, attachement, aversion, moi le plus important, le mieux de tous, moi en manque, le pire de tous, c'est toujours sur cette échelle avec au centre moi et le reste du monde, moi et mes émotions, moi et mon vécu, moi et les autres. Ça, c'est, on pourrait dire, la racine centrale de samsara. C'est avec ça que l'on travaille. Et ça semble être une telle évidence qui est le moi que normalement, on ne le remet même pas en question. Tout le monde vit avec cette notion d'un moi au centre comme un fait de la vie. Pas chez les bouddhistes, pas chez quelques d'autres approches, ou en question, mais en fait, c'est quoi, là, au centre? Et nous passons tous, quand nous commençons à faire n'importe quelle pratique du Dharma, dans n'importe quelle tradition, nous commençons par la première étape, s'arrêter, faire stop. Ok, première étape des cinq étapes, on s'assoit, et on nous enseigne de tout simplement être, pas réagir. On nous enseigne de ne pas bouger, ce qui est difficile. On a envie de se gratter, on a une petite douleur, on veut bouger. Donc ça dépend de la tradition à quel point on est strict là-dessus. L'idée derrière, c'est de sortir de ce mode réactionnaire. Si on médite avec le regard ouvert, on apprend à ne pas suivre la mouche qui passe, à ne pas regarder pourquoi la voisine elle bouge. On se détend, on ne réagit pas. Et le plus simple, c'est l'apprendre avec les sensations physique, basé dans les cinq sens physiques. De ne pas poursuivre en son, laisser le son. Pas tourner la tête, pas bouger dans le corps. Développer cette capacité de juste être. Et là-dedans, on remarque que ça se joue tout le temps dans ce qu'on appelle le sixième sens, le mental. Les mouvements mentaux qui intègrent en fait les cinq sens extérieurs avec notre capacité imaginaire de réflexion, d'interprétation, intuition, des impulsions, tout cela, tout ce qui se joue dans le mental, dans l'émotionnel, la façon de digérer et interpréter les perceptions. Et là, pareil, on adopte la même attitude. Une pensée s'élève, c'est-à-dire un mouvement de pensée se fait sans être poursuivi, sans réaction. On laisse. Là, vous avez différents enseignements qui parlent comme les nuages dans le ciel qui se dissipent, les vagues dans l'eau. Vous avez plein d'images dans le Dharma qui parle de cette capacité de laisser les choses sans interagir pour le moment. Ça, c'est la première étape. Mais pour parler concrètement, cette première étape, avec nos émotions les plus fortes, ça peut prendre du temps. Moi, j'avais un papa qui m'énervait énormément. C'était pour moi la grande épreuve. Il m'a fallu 2 ans, 3 ans avant de pouvoir ne pas réagir quand il me provoquait. Donc là, si vous souhaitez de l'apprendre dans la situation facile en étant assis, très très bien, c'est la base. Mais de pouvoir rester calme et sans réaction quand vous êtes provoqué dans des endroits sensibles, ça, il faut quand même avoir un peu de patience avant que ce soit le cas, n'est-ce pas? les points déclencheurs. Vous avez tous aussi, comme moi, des points déclencheurs? Oui. Donc, les points sensibles. Et là, imaginez-vous, les points déclencheurs seront comme des boutons sur lesquels on peut appuyer. Ta femme appuie peut-être sur un point déclencheur. Et normalement, ça marche. Elle te fait une remarque et tu pars. Ok. Imagine que ta pratique avance et elle appuie. Elle appuie encore et ça ne se déclenche plus. Là, c'est la maîtrise de la première étape dans le domaine la plus difficile. Ok, il est possible que dans d'autres domaines affectifs, émotionnels, nous avons déjà une bonne maîtrise de cette détente, de ne pas réagir aux stimulations émotionnelles. Par exemple, dans votre vie professionnelle, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà une bonne maîtrise dans le professionnel à ne pas prendre les choses personnelles. Ça veut dire, on dit comme ça? Personnellement. Mais à la maison, c'est autre chose. Dans la relation affective la plus proche, c'est autre chose. On prend les choses personnellement. L'autre jour, quand j'ai critiqué la personne en charge de la statique de notre maison, comme on dit, la sécurité statique, on dit comme ça. Donc, dans l'échange, après, il me dit, bon, je me suis dit, peut-être j'étais un peu trop fort, et il dit, ah, pas de problème, on est dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, ça parle fort. Donc, pas de problème, c'est professionnel. Mais la même chose au niveau personnel aurait dû déclencher une réaction émotionnelle. Et ça, vous voyez peut-être la différence. Donc, ne pensez pas que vous allez avancer sur ces 5 étapes que je vais décrire tout en même temps, dans tous les domaines en même temps. Par exemple, l'insécurité émotionnelle dans la relation affective avec la personne que vous aimez le plus peut se développer beaucoup plus doucement que le reste. Pour moi, c'était une découverte énorme qu'après des années de pratique de Mahamudra, rarement de colère, bon, en entrant dans la relation affective, j'ai trouvé encore des points déclencheurs que je n'avais pas remarqués avant. Parce que proximité émotionnelle fait plus sensible, plus proche de mon vécu de la petite enfance et facile à déclencher. Il faut amener donc la pratique là-dedans, même si ce n'était pas sollicité pendant une vingtaine d'années. Donc vous voyez un peu dans votre pratique tout ce qui vous aide à ce premier niveau. Souvent c'est se rappeler de la respiration, d'aller dans le vécu sensoriel, dans le corps, au lieu de s'occuper de toutes les impressions qui viennent d'ailleurs. Le seul pouvoir de laisser passer une impulsion, une pensée sans réagir, toutes ces capacités-là. Pour le faire, vous êtes souvent déjà en train d'utiliser l'étape numéro 2. Par exemple, vous ne vous détendez pas seulement, mais vous vous dites, ça aussi, ça va passer. Un petit rappel de l'impermanence. Mais l'impermanence, à ce stade-là, c'est un remède. Là, c'est une réflexion de se dire, ah, ne le prends pas au sérieux, ça passe, c'est impermanent, donc tu peux te détendre. Là, on est déjà en train d'appliquer un remède. Vous voyez? Et pareil, la reste focaliser son attention sur le souffle, c'est déjà le début d'un remède. Parce que c'est une méthode qui nous stabilise. Pour pouvoir l'appliquer, il faut s'arrêter et chercher la méthode. Et ne pas réagir, ok, respire. Donc, étape 1, étape 1 et étape 2 se suivent très très rapidement normalement. Le réflexe de ne pas tout de suite réagir, ça c'est la première étape. Et par la pause qui est créée, donc, c'est quand on dit se mordre sur la langue, n'est-ce pas? Là, le temps qu'on ferme la bouche et on ne laisse pas sortir ce qu'on avait envie de dire, ça c'est l'étape numéro 1. Et là-dedans, on peut par exemple prendre refuge. On peut dire à l'entier Bouddha Dhammasangha, le Bouddha. Bouddha SOS, Bouddha SOS, SOS, SOS. Guidez-moi, je suis perdu. Ça, cette petite prière-là, ça c'est déjà le remède. Hein? Vous prendre refuge, se rappeler de sa motivation est un remède. Par exemple, vous êtes dans une réunion d'équipe dans votre travail. Et vous savez d'avance que ça va être une réunion difficile. Parce qu'il y a des sujets à l'ordre du jour qui sont fortement émotionnels. Donc, vous y préparez. Et vous dites, la seule chose qui est importante maintenant, c'est que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on arrive à se comprendre, pas avoir des solutions, mais juste comprendre ce qui est le point de vue de chacun. Et ça, c'est, vous avez établi cette motivation fortement dans votre esprit, cœur, avant de vous lancer dans la réunion. Et pendant la réunion, au moment où ça risque de partir, vous vous arrêtez et vous vous rappelez à ce moment de votre motivation dominante, principale. Se rappeler de sa motivation est un remède pour ne pas partir avec l'autre motivation qui sera de se défendre ou de contre-attaquer. Vous voyez, ce sont d'autres motivations qui pourrait entrer par peur, par besoin de se protéger, etc. Donc, là, de se rappeler de sa motivation originelle, c'est déjà un remède. Donc, si vous joignez ça avec ce que j'ai dit hier sur la motivation de la bodhicitta, se rappeler de la bodhicitta est un grand remède. Se rappeler dans la pause créé par notre décision de ne pas se laisser emporter par l'émotion, dans cette pause-là, pouvoir se rappeler, mais je suis là pour le bien de tous, je ne suis même pas là pour me défendre, ce n'est pas le pourquoi, je suis là pour servir. Ok. C'est un très très fort rappel. Après, il y a d'autres formes. Par exemple, une personne dans cette réunion qui vous énerve à fond, et même les autres, elle est insoutenable. On la ferme, ok, et nous sommes à ce moment peut-être motivés d'appliquer comme remède la compassion. Mais la compassion, ce n'est pas plaquer la compassion dessus, mais en fait de se dire, mais de quoi souffre cette personne? Mais qu'est-ce qui fait que cette personne se comporte ainsi? Donc vous sortez les antennes de compassion, ça veut dire de vouloir comprendre, de vouloir ressentir ce qu'elle vit, où elle se sent agressée, manque de sécurité, où elle doit se défendre. Et pour le moment, on ne comprend pas encore, mais vous appliquez le remède à votre propre colère, et ce remède, ouvre le cœur, ouvre une présence qui maintenant, qui opère maintenant sur un autre plan. D'accord? Et ça, si y a ce travail-là, ça commence à entrer dans la troisième étape, transformer le regard. Parmi les méthodes les plus efficaces pour transformer notre regard, c'est l'entraînement à pouvoir adopter le regard des autres dans la situation. Donc, comme disent les Indiens d'Amérique, de pouvoir marcher dans les mocassins de l'autre pendant quelque temps, pour voir le monde avec ses yeux. Et ça, c'est donc la continuation du remède, de se rappeler de la motivation. On souhaite comprendre dans cette réunion. Et pour pouvoir comprendre, il faut que je me mette un peu dans les mocassins de chacun présent. Et grâce à cette capacité, là nous sommes au troisième niveau. On change le regard chaque fois. Et parce qu'on est capable d'adopter le regard de chacun, grande fluidité dans notre propre être. On n'y est pas pour prouver que notre regard de la situation est la bonne. On souhaite d'abord comprendre tout. Et quand, si on peut adopter le regard de chacun dans la salle, peu à peu commence à sortir un regard panoramique de la situation. Un regard vraiment panoramique n'est pas seulement le regard de tous ceux qui sont présents, mais aussi de tous ceux qui sont attachés à ceux qui sont présents. Donc par exemple, si je vous parle maintenant, je vous parle comme des personnes ici présentes, mais dans mon regard du cœur, j'ai aussi votre proche avec vous ici dans la salle. D'accord? Donc je parle aussi à vos enfants, je parle à vos parents, à vos conjoints. Tout cela, ils sont là avec vous. Comme vous sachez bien, ils sont toujours là, sous-consciemment, ils sont toujours là. Même des fois, c'est une pensée consciente, mais comment ma fille se sentirait si jamais je l'amène ici? Des fois, ça devient conscient. À d'autres moments, c'est « Mais comment est-ce que j'explique ça à mon copain quand je rentre ce soir ?»« À mon mari ?» Voilà. Donc, des fois, c'est conscient, mais toujours, c'est présent. Donc, une vision panoramique de la situation, c'est en fait inclure tous ceux avec lesquels nous avons des liens. Et en principe, c'est sans fin. Parce que nous avons des liens avec le monde entier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Un jour, j'ai lu qu'ils ont fait vraiment des expérimentations, des recherches. Ils ont trouvé que d'une personne, il faut un maximum de 7 liens personnels pour arriver jusqu'à n'importe quelle personne sur la planète, sans passer par la radio, la télé, etc. Juste connexion personnelle. Maximum de 7 personnes pour pouvoir atteindre n'importe qui en Sibérie, en Afrique du Sud, dans l'Amazonie. Incroyable, n'est-ce pas? Donc, un message important, qui est si important que tout le monde va en parler, parce que c'est si important, pourrait arriver chez tout le monde en passant seulement par 6 relais. Cette personne se fait 6 relais. Ok? Incroyable! Donc, une vision panoramique de la situation, si on parle des choses importantes, inclut en principe tout le monde. Bon, on n'a pas besoin de penser aussi large que ça, mais si on a une réunion d'équipe dans l'hôpital, par exemple, ce n'est pas seulement les infirmiers, les médecins concernés, c'est aussi tous les patients qui sont concernés, dans tous les clients, et leurs familles. Ça fait déjà plus grand que la réunion qui se tient dans la salle. On doit penser à tout cela. S'il y a une réunion à l'école, pareil. Toutes les familles sont concernées. Et la société en large. Donc ça, c'est une vision panoramique. Et on est toujours au niveau 3. 3, là, c'est transformer le regard de la situation. Et la grande transformation, ce n'est plus avoir le regard du moi, mais le regard de nous tous. Changement de moi à tous. Le regard de bodhicitta, le regard de tous les êtres, le bien de tous les êtres, l'éveil de tous les êtres. Waouh, c'est presque trop grand pour le dire. Mais ça, en principe, c'est la chose la plus importante, d'avoir l'éveil de tous les êtres dans le cœur. Ça, c'est donc à un niveau, transformer le regard. L'autre, j'ai déjà mentionné, le regard qu'il n'y a pas de problème, mais seulement des défis, challenge, et que ces défis, challenge, sont en fait des cadeaux. Et en fait, ce sont des cadeaux faits par notre gourou, par les Bouddhas. Donc, la situation difficile, ma maladie par exemple, petit cadeau du Bouddha. Pas un cadeau souhaité, mais on en fait un cadeau souhaité. On dit, de toute façon, je n'ai qu'autre chose à faire qu'accepter la situation comme elle est. Pourquoi pas l'accepter comme un cadeau d'apprentissage d'où je peux apprendre un maximum. Donc, diagnostic du cancer, qu'est-ce que je fais? Au lieu de résister la mauvaise nouvelle, je l'accepte, je travaille avec, qu'est-ce que je peux encore apprendre? Qu'est-ce que ça pourrait m'enseigner et j'en fais le mieux? Si je meurs, si je ne meurs pas, je prends ça comme un chemin. Vous êtes d'accord? C'est le grand changement du regard. Il y a d'autres changements du regard qui continuent ce que nous avons commencé hier. Changement du regard de moi-même. Moi, petit moi, avec tout ce sentiment d'insécurité, non, ça c'est un regard qui enferme. Pourquoi pas se regarder comme l'être potentiel de Bouddha avec toutes les qualités éveillées comme potentiel en nous. On appelle ça se regarder comme le Yidam. Un Yidam c'est comme le Bouddha de la compassion éveillée Avalokiteshvara. Tenrezé, au-dessus de la tête d'Edwin. Donc là, on pourrait transformer sa présence dans la situation en se disant, d'accord, dans ce rencontre maintenant, je ne suis plus toi-même. Je prie pour la bénédiction de Avalokiteshvara ou de Bouddha Shakyamuni, de m'utiliser comme outil et que je sois donc Chenrezi dans cette situation, Avalokiteshvara. Ou Tara, vous avez entendu de Tara peut-être, hein? un Bouddha féminin. Et pourquoi pas faire notre travail comme Tara? Mais c'est génial, on ne se prend pas au sérieux. On ne prend rien personnel. Tout est un rappel de la bodhicitta, de l'activité éveillée, comme nous l'avons décrit hier. Donc, grande transformation de la vision des choses. Grande transformation. Celle qui, dans un état normal, a du mal à s'imaginer d'être aimée, etc., elle doit apprendre ça, comment faire, mais elle se lie à ses propres qualités de Bouddha, les qualités éveillées, avec une assurance naturelle, sans prétention, où elle n'est plus dans la recherche des louanges, de combler les besoins affectifs par les retours sympas des autres. Elle prend sa place dans le monde, comme une femme éveillée. Et ça, c'est possible seulement quand on l'a pratiqué avant. Hein. On ne peut pas juste dire « maintenant je suis Tara ». Non, non, non. Il y a tout un apprentissage. C'est une pratique quotidienne à faire pour que ça marche dans des situations autres que sur le coussin. Mais c'est une pratique extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Mais il faut apprendre à faire ça sans entrer dans l'orgueil. Là, il faut savoir faire la différence entre identification, moi Tara, jusqu'à aller en psychiatrie, ou moi Tara, toute étendue, ouverte, sans affirmation personnelle d'être quelqu'un. Parce que quand on est Tara soi-même, Tsenrezig soi-même, tous les autres sont aussi Tara et Tsenrezig. Ça, c'est la clé. Jamais pratique de Yidam sans regarder tout le monde comme Yidam. Ça n'existe pas. Si moi je suis Tsenrezig, vous êtes aussi Tsenrezig. Nous sommes toujours au même niveau. Regard, comment est-ce qu'on dit, au même niveau des yeux. Hein, on n'est pas dans une nouvelle forme de surestimation de soi avec un regard arrogant envers ceux dont on va s'occuper maintenant. Moi, Tara, je m'occupe des autres. Non, 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 non. Dans la situation difficile, Tara, elle regarde les autres comme Tara. Et nous sommes des sœurs, nous sommes des frères, nous sommes égaux au niveau de nos qualités. Donc c'est un regard qui voit le potentiel Bouddha dans l'autre. Incroyable ce que ça fait. Nous n'avons pas besoin de passer par cette méthode Vajrayana avec la visualisation de la divinité. Nous pouvons avoir ce regard sans utiliser les Yidam. Mais peut-être juste si vous tournez la tête maintenant et vous regardez autour avec un regard pour la nature de Bouddha en chacun. Si vous pourriez faire ça, juste regarder avec les antennes pour la nature de Bouddha en chacun, c'est-à-dire la beauté en chacun, la liberté possible en chacun, la capacité de tout comprendre, d'être complètement libre. Donc, le Bouddha en chacun. Ce regard-là, on peut l'apprendre. Dans la situation thérapeutique, c'est le regard pour la guérison complète que l'on voit déjà comme des germes dans l'autre. Il y a déjà des éclats, on pourrait dire, de lumière. C'est comme si le cœur de l'autre nous parle. Donc, en pleine souffrance, on voit déjà l'être complètement lui, complètement guéri, ça veut dire complètement libéré de cette souffrance. Cet être est déjà là. Vous comprenez, semble-t-il, ce dont je parle. On a une perception. Tiens, cette personne-là elle a besoin et envie de se retrouver elle-même. Et quand je parle d'elle-même, je parle de ses qualités inhérentes. Et qu'est-ce qu'elle se rappelle? Waouh! Elle rayonne, et je peux voir dans l'autre comment elle rayonne une fois libérée de tous ses voies. Et ce regard-là, c'est ce qui est le plus utile, le plus stimulant pour un processus de guérison. Si je rencontre une personne qui me regarde de cette manière-là, tout de suite la confiance, je me sens vu, en même temps que ma souffrance est vue aussi, elle n'est pas niée, c'est notre travail, on travaille avec ça. Mais toujours en faisant référence à ce qu'on appelle les ressources. Mais les ressources sont en fait les qualités inhérentes de notre esprit. Là, les ressources avec lesquelles va se faire le chemin de la guérison, ce sont les ressources de notre propre esprit. Cette capacité d'aimer, la compréhension, l'ouverture, générosité, gratitude, tout cela. Courage. Je peux voir dans une femme vraiment, comment est-ce qu'on peut dire, insécure, qui manque de sécurité. Derrière tout cela, je peux déjà voir celle qui aura du courage, qui dans des situations pourrait être intrépide, comme Tara. Donc derrière celle qui doute continuellement de soi-même, d'elle-même, je vois déjà l'autre qui va pouvoir sortir une fois qu'on ses croyances sur soi-même qui sont extrêmement limitantes, quand ses croyances partent et qu'elles prennent l'assise dans l'être. Voilà, on est jusqu'à troisième étape. Jusqu'à là, vous avez des questions? Oui. Ah, on va faire avec le micro, je crois. C'est vrai, ça, on va faire?
Oui. Est-ce que il n'y a pas des aspects positifs dans l'expression de son émotion? Et si c'est le cas, comment le concilier avec ce que vous venez de nous dire?
Alors, le terme émotion, en venant du latin, est bien plus large de ce que j'utilise là à ce moment-là. Par exemple, l'amour, la joie, on l'appelle aussi émotion. Dans l'amour sans saisie, dans la joie sans saisie, il n'y a rien que voit notre esprit. Ça, ce sont des émotions qui aident à la libération, mais qui peuvent être mélangées avec la saisie. Donc la joie n'est plus une joie, mais une fascination. L'amour peut devenir une possessivité. Donc, quand pour ne pas toujours dire le mot émotion perturbatrice ou émotion qui voit, pour pouvoir parler en bref, jusqu'à maintenant, j'ai parlé juste d'émotion. Mais nous, en français, pareil comme en allemand et dans d'autres langues, il y a aussi des émotions bénéfiques qui soutiennent le chemin de l'éveil. Mais ce n'est pas ça qui est appelé klesha par le Bouddha. Klesha, c'est tout ce qui empêche la liberté et qui, tout de suite, en même temps que l'avoir, on a du dukkha, on a du stress. Donc toute émotion qui produit du stress, c'est ça ce qui est appelé les voiles émotionnels. Donc on va se libérer. Est-ce que je suis plus clair là?
Si je prends l'exemple de la colère, par exemple,
oui.
Exprimer sa colère peut avoir peut-être des effets positifs.
Tout à fait. Donc, pour chaque émotion, si on regarde, il y a un aspect absolument positif. La colère, par exemple, elle voit quelque chose qui n'est pas juste. Et elle tente à créer une situation plus juste, qui est ressentie au moins comme plus juste. Donc, il y a un élan dedans, une sagesse, une capacité de différencier ce qui convient, ce qui ne convient pas. Ça, ça va rester. Quand le voile émotionnel est parti, cette capacité de transformer la situation va rester. Tellement elle est